France Culture.
Tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction. Et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on débutera ce journal avec un rebondissement susceptible de relancer le feuilleton budgétaire après que Sébastien Lecornu a décidé de saisir le Conseil constitutionnel sur plusieurs de ses mesures emblématiques, notamment en matière de justice fiscale. Avec l'annonce ce matin de la candidature de Jérôme Gadge à la présidentielle, on se demandera pourquoi le scrutin de 2027 suscite autant la convoitise. À suivre également la mise au point ce matin du président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, l'occasion aussi de s'interroger avec notre invité sur le rôle de cet outil au service de l'information des assemblées parlementaires. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est tout d'abord la fin du traité de désarmement nucléaire liant Washington et Moscou, et puis on reviendra sur la pression maximale à l'œuvre avant le début demain des négociations sur le nucléaire iranien. À tous ceux que le dénouement de l'interminable saga budgétaire en France avait laissé sur leur faim, qu'il sera sur un nouvel épisode est déjà en cours d'élaboration. Hier, pour la première fois en près d'un demi-siècle, le Premier ministre a lui-même saisi le Conseil constitutionnel de son projet de loi de finances. Sébastien Lecornu s'interroge en effet sur la solidité juridique de trois mesures qu'il a pourtant fait adopter, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de trois dispositifs instaurés notamment à la demande de la gauche en échange d'un accord de non-censure et qui visent tous, en l'occurrence, à mieux taxer les riches. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
En clair, tous ces articles extrêmement sensibles visés par Matignon dans sa saisine seraient susceptibles, Rosalie, ni plus ni moins, d'être remis en cause.
Oui, le Premier ministre attire l'attention du Conseil constitutionnel sur la taxe sur les holdings patrimoniales, sur le resserrement du pacte Dutreil, cette niche qui favorise les transmissions d'entreprises familiales aux membres de la famille, et sur l'article qui restreint l'avantage fiscal censé inciter à réinvestir l'argent d'une vente d'une entreprise. Trois mesures de taxation ou de restriction de niche fiscale négociées avec le Parti socialiste, mais aussi le Modem, que Sébastien Lecornu veut donc faire vérifier.
Habituellement, les saisines du Conseil constitutionnel relèvent plutôt des parlementaires. Le Premier ministre lui-même, c'est vraiment très, très exceptionnel.
Faut-il y voir un coup de Trafalgar fait au PS ? Le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier en doute.
C'est une hypothèse qui ne doit pas être exclue. Mais eu égard à la démarche de Sébastien Lecornu dans le cadre de ces négociations budgétaires, ce serait tout de même assez surprenant. Ce qu'il faut peut-être privilégier comme voie, c'est eu égard à un dispositif qui reste exceptionnel et qui pourrait souffrir d'une inconstitutionnalité à l'avenir. Le Premier ministre a préféré veiller à la parfaite constitutionnalité du dispositif afin d'éviter que cela engendre des difficultés juridiques à l'avenir si, a posteriori, le Conseil constitutionnel devait les censurer.
Si la démarche devait cacher autre chose, les près de 70 députés socialistes conservent de toute façon la possibilité de déposer et de voter une motion de censure à l'Assemblée. Les trois dernières, défendues par le reste de la gauche, ont manqué de moins de 30 voix pour être adoptées.
Merci Rosalie Lafarge. Et déjà une autre équation à plusieurs inconnus, attend Sébastien Lecornu. Comment renouveler une partie de son équipe à quelques semaines des municipales? Ce simple ajustement ministériel pourrait rapidement tourner au véritable casse-tête. Pourquoi? Même si Rachida Dati devrait être la seule ministre d'envergure en réalité à quitter le gouvernement pour briguer la mairie de Paris, le sort d'un autre poids lourd toutefois interroge celui de Gérald Darmanin, ami de longue date du Premier ministre, le garde des Sceaux qui laisse encore planer le doute sur ses ambitions présidentielles.
Lui, en revanche, ne s'en cache plus. Ce matin, Jérôme Gadge a annoncé sa candidature pour 2027.
Le député de l'Essonne est ainsi le premier socialiste à se déclarer officiellement pour représenter, dit-il, une gauche républicaine, universaliste et laïque. Comprenez résolument rupture avec la France insoumise, qui pourtant a longtemps été très proche de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, Jérôme Gadge n'est pas franchement du genre à craindre les déchirures. L'ancien tenant de l'aile gauche du PS, membre des Frondeurs, avait, on s'en souvient grandement, compliqué le quinquennat de François Hollande, et puis ces derniers mois, défenseur désormais d'une ligne réformiste, il aura été à gauche l'un des plus fervents partisans de la politique de la main tendue à Sébastien Lecornu sur le budget, ne voyant pas de compromission dans la recherche d'une forme d'accommodement avec le camp macroniste. Enfin, précisons que l'énarque entend se présenter sans passer par la primaire que compte organiser à l'automne socialiste et écologiste. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Cette annonce vient s'ajouter en réalité aux très nombreuses autres candidatures à la course à l'Élysée. Qu'est-ce qui, dans le contexte actuel, Stéphane, peut te expliquer la multiplication de toutes ces aspirations à la fonction suprême?
Invité ce matin de Benjamin Duhamel sur France Inter, le député socialiste de l'Essonne a eu bien du mal à justifier cette énième candidature à gauche.
C'est une ligne politique qui est majoritaire. Moi, elle m'anime.
Peut-être qu'elle est majoritaire, Jérôme Gage, mais il s'avère qu'il y a à gauche un candidat qui est à plus de 10% dans les sondages qui s'appelle Raphaël Glucksmann. En quoi votre candidature sert-elle à quelque chose à partir du moment où vraisemblablement il va être candidat ?
Nous ne sommes pas concurrents avec Raphaël Glucksmann. Moi, je souhaite que nous travaillions tous ensemble sur cette orientation politique de cette gauche européenne, de cette gauche universaliste.
Vous avez des différences idéologiques avec lui ?
Mettons-nous autour de la table devant les Français.
Et il n'y a pas que Raphaël Glucksmann, il y a aussi François Ruffin, Clémentine Autain, Marine Tondelier, François Hollande qui œuvrent en coulisses à un éventuel retour, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment. Il y en a tout autant au centre et à droite de l'échiquier politique, Édouard Philippe, Xavier Bertrand, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, David Lisnard, on ne les compte plus. Nous assistons à un véritable feu d'artifice d'ambition et de déclaration d'intention. Ça s'explique d'abord par le fait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Ça ouvre le jeu considérablement. On se retrouve dans une situation similaire à 2007 avec un président sortant, Jacques Chirac, dont on savait qu'il ne se représenterait pas, ce qui avait généré un grand nombre de candidatures potentielles. Il y a peut-être aussi l'incertitude sur la personnalité du futur candidat du Rassemblement National. Jordan Bardella peut paraître, aux yeux de certains, plus fragile que Marine Le Pen et laisser penser que sa qualification au second tour n'est pas complètement acquise. Là encore, ça ouvre le jeu, à droite notamment. Certains n'ont pas de réelles ambitions. Pour tout de suite, ils sont candidats pour se faire connaître et ils jouent le coup d'après, ou bien espèrent que leur nouvelle notoriété permettra de négocier un poste dans un futur gouvernement. Enfin, la candidature et l'élection d'Emmanuel Macron surgit de nulle part en 2017, a semble-t-il déverrouillé quelque chose dans l'esprit d'un certain nombre de personnalités qui se disent aujourd'hui, 9 ans plus tard, et pourquoi pas moi ?
Merci Stéphane Robert.
Depuis son lancement, on ne compte plus les polémiques et autres dérapages filmés.
Hier encore, la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public aura été le théâtre d'échanges houleux entre les deux députés mandatés pour la conduire, son président d'une part, Jérémy Patrier-Lettius, élu Horizon du Calvados, et son rapporteur d'autre part, Charles Alloncle, élu ciotiste de l'Hérault, chacun reprochant régulièrement à l'autre sa manière de mener les auditions et de se mettre en scène. Estelle Caméraire, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, Jérémy Patrier-Lettius a d'ailleurs ouvert la séance avec une mise au point, donc après les tensions de la veille.
En appelant à la responsabilité de chacun pour, je cite, garantir le cadre digne et sérieux des travaux, le président de la commission a déploré un triste spectacle trop souvent donné aux Français, en particulier après l'accrochage d'hier qui a interrompu la séance.
Hier, j'ai considéré que la dignité et le respect n'étaient plus garantis, puisque monsieur le rapporteur a porté des accusations graves à mon endroit, laissant entendre que j'aurais des liens avec les dirigeants de Media One.
L'audition des anciens ministres de la Culture a directement été suspendue et si elle a repris peu de temps après, Jérémy et Patrier-Lettius expliquent avoir échangé avec le rapporteur Charles Alloncle pour apaiser la situation.
Il sait que je lui garantis la liberté de pouvoir poser toutes les questions qu'il souhaite sans aucune forme de censure de ma part, mais que cela exige de sa part le respect d'une règle essentielle et non négociable, fonder les questions sur des faits et non sur des suspicions, des soupçons, ne pas porter ou relayer d'accusations individuelles sans qu'elles soient étayées par des faits.
Le président de la commission a également noté, je cite, un fait inédit et grave dans l'histoire de la Ve République. Après avoir appris que l'avocat Gilles-William Golnadel, chroniqueur sur CNews, souhaitait porter plainte contre Jérémy Patrier-Lettius, l'accusant de ne pas avoir convoqué un syndicat de l'audiovisuel, le député Horizon réfute cette accusation et se tient prêt à donner la preuve de la convocation. Il est temps que la calomnie, les pressions et les ingérences extérieures cessent afin que cette commission d'enquête puisse travailler sérieusement et sereinement, a-t-il conclu.
Merci Estelle Caméraire. Alors au-delà de cet énième incident, hier était auditionné par cette commission d'enquête 4 anciens ministres de la Culture et depuis ce matin, c'est au tour de Rachida Dati d'être entendue, ce qui, s'agissant de celle qui s'est souvent illustrée dans l'art du contre-feu médiatique, ne tombera pas nécessairement au meilleur moment. Alors qu'elle s'apprête, on l'a dit, à quitter le gouvernement pour se consacrer à sa campagne municipale, plutôt disons à tonne, tout en laissant derrière elle un bilan plus que contrasté. Quoi qu'il en soit, l'audition de Rachida Dati ce matin est aussi l'occasion pour nous de s'interroger sur le rôle au fond de ces commissions d'enquête parlementaires et pour le savoir, invité de la rédaction Camille Righetti, docteur en droit public, par ailleurs enseignante à l'Université de Lille. Bonjour madame.
Bonjour.
On évoquait à l'instant l'ambiance tendue donc hier entre Charles Alloncle et Jérémy Patrier-Lettius au sein de la commission d'enquête. Déjà le week-end dernier, 4 de ses membres avaient demandé à la présidente de l'Assemblée d'adresser un rappel à l'ordre. Comment est-ce que vous percevez ce degré de mésentente entre le rapporteur d'un côté et le président de l'autre? Et ensuite, est-ce que tout cela est susceptible, selon vous, de compromettre carrément la possibilité pour la commission de mener ses travaux à son terme?
Alors, je vous remercie de m'accueillir. Pour ce degré de mésentente, est quand même assez inédit, ou en tout cas très médiatisé, donc ce qui, je trouve, intensifie encore plus ces mauvaises relations. En revanche, il y a quand même quelques précédents dans la Ve République, et on peut penser à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale justement sur l'affaire Benalla, qui a complètement conduit à l'implosion de cette commission. Il y a d'autres exemples un peu plus récents, un peu moins ostentatoires, mais notamment la commission d'enquête sur les dérapages budgétaires. Est-ce que ça pourrait porter préjudice aux travaux? Oui et non, dans le sens où j'ai écouté ce matin l'audition de la ministre de la Culture. L'audition semble s'être bien déroulée, donc ce qui montre quand même un intérêt de la commission d'enquête et du rapporteur et du président de poursuivre les travaux jusqu'au bout.
Ces dernières années, et davantage encore d'ailleurs ces derniers mois, les commissions d'enquête semblent prendre une part de plus en plus centrale dans la vie parlementaire française, mais aussi dans l'attention médiatique. Comment peut-on expliquer cette tendance? Et d'ailleurs, est-ce que le nombre de commissions mises en place a effectivement augmenté ces derniers mois?
Ces derniers mois, ça a indéniablement augmenté. Alors, on va dire que c'est une tendance depuis même plusieurs années, depuis au moins 2008, quand le droit de tirage a été inscrit dans la Constitution. Alors, ce qui est flagrant sous cette législature, c'est cette augmentation très rapide vis-à-vis des autres législatures, au regard de la configuration aussi très particulière de l'Assemblée nationale. Alors, il y a beaucoup de groupes politiques, mais il y a surtout beaucoup de groupes politiques qui se sont déclarés de l'opposition et de la minorité, ce qui leur permet justement d'utiliser ce droit de tirage, et donc ce qui conduit presque mathématiquement à cette multiplication croissante des commissions d'enquête.
C'est-à-dire que le contexte politique, à la fois la disparition du fait majoritaire et ce faisant le relatif blocage à la tête de l'État, joue un rôle aussi dans les sorts de ces commissions.
Ah oui, bien sûr. Justement, cette fragmentation. Et puis, il y a aussi, au-delà du nombre de groupes, c'est aussi, cette disparition du fait majoritaire. En tout cas, sous cette législature, on peut remarquer que les députés cherchent à se saisir davantage de leur, fonction parlementaire. On l'a vu pour l'adoption du budget sur la fonction législative. Bon, je préciserai pas, mais sur la fonction de contrôle avec l'adoption de la motion de censure ou le rejet de la déclaration de la politique publique de François Bayrou, et ce qu'on voit aussi sur cette fonction de contrôle vis-à-vis des commissions d'enquête. Donc on voit clairement que les députés se saisissent. Et puis, dans ce contexte aussi de fragmentation, il est clairement plus simple de créer une commission d'enquête que de faire adopter une proposition de loi que le député a déposée.
Mais cela veut dire qu'il y a quand même une réaction donc à la faiblesse des mécanismes prévus dans notre Constitution aujourd'hui pour mettre en jeu la responsabilité politique d'un gouvernement.
Alors oui, vaste sujet sur cette responsabilité. Je serais pas la responsabilité. On l'entend en France comme justement cette sanction politique. On engage la responsabilité politique du gouvernement et on le renverse. C'est comme ça qu'on l'entend en France. Mais c'est un peu réducteur, je trouve, parce que la responsabilité peut avoir un autre sens. En lien, hein, mais ce sens où on demande notamment aux ministres, pour faire écho aux auditions en ce moment, de rendre des comptes, de se justifier et de répondre aux questions. Et c'est un autre sens plus américain de la responsabilité. Et ça, cette responsabilité est souvent exercée. Et il faut mettre davantage en exergue. Et si les réponses ne conviennent pas, peut-être dans une hypothèse, une motion de censure pourrait être adoptée. Mais le fait d'inviter des ministres à témoigner devant une commission d'enquête, c'est de la responsabilité politique. Il n'y a juste pas de sanction à la fin.
C'est bien compris. Merci Camille Righetti, donc docteur, je le rappelle, en droit public, par ailleurs enseignante à l'Université de Lille, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
La loi olympique a été définitivement adoptée ce matin.
Oui, attendu depuis des mois, le texte issu d'un compromis largement approuvé mardi dernier à l'Assemblée a obtenu ce matin le feu vert du Sénat. Une étape déterminante donc pour faciliter l'organisation des Jeux d'hiver en France en 2030 et puis surtout une éclaircie en pleine crise de gouvernance au sein de son comité d'organisation ébranlé par 3 démissions en seulement 2 mois. Et puis après des années de débats, après une convention citoyenne qui s'est clairement exprimée sur le sujet, après avoir retiré du texte les 2 termes dont la connotation est jugée trop négative, suicide assisté, euthanasie, hier la création d'un droit à l'aide à mourir et les conditions pour y accéder, adoptées au printemps dernier par l'Assemblée, a été approuvée en commission par les députés. Le texte reviendra dans l'hémicycle le 16 février avant un vote solennel prévu le 24 février.
Midi et 45 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Voilà plusieurs mois déjà que l'actualité internationale a tendance à esquisser la fin d'une époque, ou plutôt à redessiner d'ailleurs les contours d'un ordre ancien. Dernier exemple en date, ce matin a expiré le traité de désarmement nucléaire, New START, liant les États-Unis et la Russie, lequel avait marqué un tournant majeur dans l'histoire du contrôle des armements depuis la guerre froide. De quoi raviver aussitôt les craintes d'une possible nouvelle prolifération. Même le pape Léon, qui s'exprime plutôt rarement sur le nucléaire et ses traités, a commenté l'événement en appelant dès hier à prévenir une nouvelle course aux armements. Éric Biégala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors il n'est évidemment pas le seul, puisque dans la foulée, l'OTAN, par la voix de son porte-parole, a également appelé Éric à la retenue et à la responsabilité.
Oui, et d'ailleurs la Russie avait elle aussi promis retenue et responsabilité à l'expiration du traité. Lors d'une conversation mercredi avec son homologue chinois Xi Jinping, Vladimir Poutine a souligné, indiquait son porte-parole, que, je le cite, « dans cette situation, nous agirons de manière réfléchie et responsable ». Alors le traité New START, c'était le dernier en date des traités limitant l'armement nucléaire des États-Unis et de la Russie. Il prévoyait une limite haute au nombre d'ogives qui pouvaient être déployées, 1550 pour chaque pays, ainsi que des vecteurs, essentiellement les missiles, susceptibles de transporter ces armes. Surtout, ce traité prévoyait des mécanismes de vérification comprenant notamment 18 visites par an des Américains en Russie et des Russes aux États-Unis sur les sites susceptibles de déployer ou de lancer ces armes. Mais à vrai dire, le traité ressemblait davantage à une lettre morte. Depuis 2023, la Russie avait en effet annoncé la suspension des vérifications suite à son offensive en Ukraine, assortissant d'ailleurs la mesure de menaces très claires de frappe nucléaire sur l'Europe, menace réitérée à de multiples reprises depuis. Alors la fin du New START, c'est surtout l'expiration de tout cadre légal permettant une certaine maîtrise du déploiement des armements stratégiques russes et américains. Cette expiration pourrait donc ouvrir logiquement la voie à une relance de la course aux armements, qui a pour ainsi dire déjà largement commencé. Américains, Russes et Chinois notamment se sont lancés tous dans d'ambitieux programmes d'armement, notamment de vecteurs à capacité nucléaire, missiles intercontinentaux, missiles de portée intermédiaire, mais aussi missiles de croisière et planeurs hypersoniques, satellites armés ou missiles orbitaux ou encore drones sous-marins, tous capables de lancer une ou plusieurs armes nucléaires en même temps.
Merci Eric Biégala. Après une multitude de signaux contradictoires, les États-Unis et l'Iran ont fait état officiellement de discussions prévues demain à Oman, levant pour l'instant du moins donc le doute qui planait sur ces pourparlers nucléaires. Alors cela n'empêche pas Donald Trump de maintenir la pression, jugeant par exemple que le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, devrait, je cite, se faire beaucoup de soucis. Voilà plusieurs semaines que les deux camps alternent ainsi menaces et ouverture au dialogue, mais cette fois-ci, Christian Chéneau, sous la pression des médiateurs, mais aussi parce que le contexte régional a changé, il semble bien que le cycle des négociations interrompu en 2025 va pouvoir reprendre.
Ces négociations irano-américaines à Mascate sont un soulagement pour les pays de la région. Personne ne veut d'affrontements militaires qui auraient des conséquences dévastatrices. La Turquie et les pays du Golfe, qui ont l'oreille de Donald Trump, sont à la manœuvre pour enclencher la désescalade. La réunion de demain est déjà un succès pour eux, en attendant la suite, car la question est déjà de savoir si d'autres réunions seront programmées ou pas. Israël, qui a bombardé les sites nucléaires iraniens lors de la guerre des 12 jours l'année dernière, suit de très près ces négociations d'Oman. Si les Iraniens annonçaient qu'ils renonçaient à l'enrichissement d'uranium, nous confie un diplomate de l'État hébreu, il serait alors difficile pour Trump de bombarder l'Iran. À ce stade, poursuit-il, nous n'avons pas constaté une reprise de l'enrichissement sur les sites nucléaires iraniens. L'inconnu est aussi de savoir si les discussions entre Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Abbas Araghchi, le patron de la diplomatie iranienne, évoqueront la question des missiles balistiques de Téhéran, l'autre sujet qui inquiète au plus haut point les Israéliens. Car avec l'appui de la Chine et de la Russie, la République islamique a reconstitué son stock de missiles longue portée.
C'est avec le visage souriant, bien que marqué par la fatigue et ses quelques 900 jours de détention, que Tom Félix est arrivé ce matin en France, acquitté au terme de son procès en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants. Ses premiers mots, à peine après avoir atterri, auront été « Justice a été faite ». Désormais, j'aspire au calme et je souhaite retrouver l'anonymat. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi humide à l'ouest. Tandis que quelques rares éclaircies feront leur apparition à l'est, le Morbihan a été placé en vigilance orange, pluie, inondation. Par ailleurs, l'alerte au cru concernant la Gironde a été prolongée. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.